sur les principes de mon pamphlet qui lui apparaissait abominable. D'avoir imprimé ce pamphlet fut une autre de mes erreurs. Autor erratum, puisque vous vous souvenez peut-être, dans l'autobiographie de Franklin, il imagine sa vie comme un livre qui a été marqué par une série d'erreurs et il fallait donc les corriger. Donc le texte de l'autobiographie était comme une série d'errata. Et cette métaphore se termine lorsqu'il imagine son propre cadavre comme un livre qui va recevoir une seconde édition qui sera meilleure que la première dans l'autre monde. Et il continue la relation si étroite entre l'entrée en écriture, puisque c'est en composant le livre de Wollaston qu'il décide d'écrire lui-même un petit traité, ce pamphlet, mais aussi son entrée en lecture, comme je le suis ce même passage. Pendant que je logeais dans Little Britain, je me fis une amitié ou une relation avec l'un des libraires, Wilcox, dont l'échoppe était juste à la porte à côté. Il avait une immense collection de livres de seconde main. Les circulating libraries, c'est-à-dire les librairies dans lesquelles, contre un petit droit, on peut emprunter les livres et donc lire sans acheter, n'étaient pas alors répandues ou en usage. Mais nous étions tombés d'accord que, dans des termes raisonnables, que j'ai maintenant oubliés, je pouvais prendre, lire et retourner l'un ou l'autre de ces livres. J'estimais cela un très grand avantage et j'en fis autant usage que je pus. Et donc on voit que c'est dans l'atelier qu'une pratique d'écriture au sens de composition d'un texte se lie à une pratique de typographique au sens de composition avec des caractères mobiles, et aussi que c'est la proximité entre l'atelier d'imprimerie et la librairie qui lui est juste proche que se fait aussi cette entrée de Franklin dans la lecture, de manière beaucoup plus décisive encore que lorsqu'il était aux États-Unis, et qui vont lui suggérer d'établir aux États-Unis, à Philadelphie, la première des Circulating Libraries, qui est la Library Company, dans laquelle il bâtit cette possibilité de lire sans acheter par le mécanisme de la bibliothèque de prêt. On a donc là une série de traits qui associent l'écriture avec et la lecture avec le métier à l'intérieur de l'atelier. Un troisième, en dehors de registre, enfin, du taux élevé d'alphabétisation mesuré par les signatures, en dehors de cette pratique plus forte que dans d'autres métiers de l'écriture liée au métier, disons autobiographique, il y a un troisième trait intéressant. C'est le fait que les compagnons imprimeurs, les ouvriers des ateliers, vont faire usage de l'imprimerie elle-même pour défendre leurs droits, leurs causes ou leurs revendications. Et cela dès le XVIe siècle, comme l'ont montré les travaux à la fois sur Lyon ou sur Rouen. C'est à Lyon en 1572 que sont publiés, je cite, les remontrances et mémoires pour les compagnons imprimeurs de Paris et de Lyon opposant contre les libraires, marchands imprimeurs des dix lieux et adressés au Parlement. L'usage d'un mémoire imprimé envoyé au Parlement de Paris pour justifier les revendications des compagnons imprimeurs de Paris et de Lyon contre les maîtres, soit les libraires, soit les marchands imprimeurs. Et le texte est une dénonciation de la cupidité, de l'avarice des maîtres imprimeurs ou des marchands libraires qui réduisent les compagnons, je cite, à une nécessité calamiteuse et indigne. Dans ce même texte, on retrouverait aussi un trait qui est présent chez Comta et qui est présent d'ailleurs dans les articles de l'encyclopédie sur l'imprimerie. c'est-à-dire l'idée d'un âge d'or perdu, l'idée qu'il y a eu un âge d'or mythique de l'imprimerie et qui s'est trouvé détruit, corrompu par soit l'autorité tyrannique des maîtres, et c'est le cas de ce texte de Lyon de 1572, soit pour le XVIIIe siècle par la dégradation de l'art typographique, et qui renvoie évidemment avec des césures chronologiques différentes, toujours à cette idée que lorsque l'on écrit, on est dans un moment qui est déjà celui de la chute, de la décadence, et que l'âge d'or était par définition auparavant. Et il y a une, ici, dans le texte de 1572, cette idée de la destruction de l'âge d'or par l'autorité tyrannique, elle conduit à le récuser, le mépris, l'avarice et les maux du texte, qui sont ceux des maîtres imprimeurs ou ceux des marchands libraires, et elle conduit à poser son contre-modèle, c'est-à-dire un retour à une situation inverse qui serait celle, je cite, « par-dessus tous autres arts, les maîtres et compagnons ne sont et ne doivent faire qu'un corps ensemble, étant comme d'une famille et fraternité. » Et donc ce texte de 1572 restitue ce double modèle, le modèle d'une sociabilité fraternelle et le modèle des liens familiaux, comme ce qui devrait réunir les compagnons et les maîtres et donc faire cesser cette autorité tyrannique des seconds sur les premiers et restaurer cet âge d'or qui a été perdu par cette fracture. Il y a là un motif, comme je le disais, qu'on retrouverait dans beaucoup de textes sur l'imprimerie au XVIIe et aussi au XVIIIe siècle. L'article de l'encyclopédie est très imprimeur, ou imprimerie est très frappant, je ne l'ai plus sous les yeux, mais je l'avais étudié quelque part. Il est très frappant par cette idée qu'il y avait un âge d'or. Dans ce cas-là, c'était l'âge d'or des imprimeurs, éditeurs, des incunables ou du 1er, 16e siècle. Et qu'il a été perdu, il a été détruit par la décadence de l'art. Il y a, et je m'approcherai un peu de la conclusion, puis ensuite on pourra ouvrir un débat, il y a un autre trait qui caractérise le monde des ouvriers imprimeurs ou donc typographes et pressiers, c'est une très forte conscience de leur liberté et, en un certain sens, de fierté, d'honneur du métier. Le sens de la liberté, il est directement lié à ce qu'on a vu à travers les itinérances de M. Bonnemain. C'est-à-dire, c'est d'abord une liberté qui est mobilité géographique. Et cette mobilité géographique, comme je le suggérais, elle est liée à deux choses. Elle est liée aux besoins des imprimeries qui, à l'inverse d'autres métiers, n'ont pas un travail égal à offrir en permanence, dépend beaucoup, soit des commandes pour les fameux travaux de ville, qui sont évidemment épisodiques et inégales, soit des activités qui pourraient être liées à la publication d'ouvrages. Parfois plusieurs en concurrence, d'autres fois sans une grande mobilisation, surtout si on n'est pas dans les plus grandes imprimeries de Paris, Venise ou Lyon. Il y a donc des inégalités, des irrégularités dans l'offre ou la nécessité de travail, et c'est ce qui peut expliquer donc des durées de présence extrêmement variable, de quelques semaines à quelques années. Mais du coup, l'effet est évidemment une certaine instabilité dans la certitude du travail et en même temps un effet de liberté dans ces itinérances. Et comme je le disais aussi, et c'est ce qui est la base des archives de Neuchâtel qui permet d'identifier M. Bonnemain, c'est le fait que le paiement dans les ateliers se fait non pas en fonction du paiement à la journée, comme dans d'autres métiers, mais il se fait en fonction de la tâche effectuée. et donc payé pour avoir composé ou imprimé tant de feuilles dans une semaine qui appartiennent à tel ou tel ouvrage. Et c'est ce qui a permis, évidemment, de reconstituer, lorsque ces sources existent, d'une manière extrêmement précise et méticuleuse, la distribution des feuilles, soit pour leur composition, soit pour leur impression, entre les différents ouvriers qui sont payés pour avoir, par exemple, dans le cas de Bodmin, dans le cahier L, la quatrième feuille de l'encyclopédie In Quarto, publiée par la société typographique de Neuchâtel. Mais c'est un paiement à la tâche. Ce qui donne une autre liberté, c'est cette liberté de réguler son travail sur ses besoins, c'est-à-dire une irrégularité dans le travail qui peut être liée au rythme que décide l'ouvrier, et en particulier avec cette interruption lorsqu'il estime que les gains ont été insuffisants, ce qui en français du XVIe siècle était prendre un ou plusieurs jours de tric, c'est-à-dire d'absence de travail, de sortir de l'atelier, et puis aussi cette habitude bien connue qui est celle de ne pas travailler au début de semaine, faire lundi, c'est-à-dire de prolonger le dimanche, qui est férié par loi religieuse, en ne venant pas dans l'atelier le lundi. Il y a donc une modulation du travail sur l'attente ou la nécessité du gain qui permet une deuxième liberté. La liberté, elle est géographique, entre ateliers, entre villes, et elle est dans le travail lui-même par cette forme de paiement qui est le paiement à la tâche. Et à partir de cette liberté, la conscience de la petite république est tout à fait forte, et en particulier la conscience des droits des ouvriers des ateliers contre les tyrannies, entre guillemets, des maîtres imprimeurs. Et on voit dès le XVIe siècle que les conflits portent sur trois enjeux fondamentaux. Le premier enjeu, c'est les tentations et tentatives des maîtres imprimeurs pour embaucher des apprentis à la place des compagnons, et donc du coup, évidemment, de réduire le nombre de places de compagnons ou de les payer moins. Et au XVIIIe siècle, avec cette embauche bien connue des alloués, c'est-à-dire des compagnons qui sont embauchés, mais sans pouvoir espérer accéder à la maîtrise. Donc les apprentis et les alloués, surtout les seconds, sont la cible des protestations des compagnons qui voient là des rivaux quant à ou des dangers pour maintenir leur propre embauche et maintenir leur salaire. Et c'est évidemment le deuxième enjeu de ces conflits, c'est-à-dire la rémunération du travail avec chez les ouvriers des imprimeries deux revendications fondamentales. L'une qui est celle d'un tarif, c'est-à-dire un barème à respecter pour les tâches du travail à la casse, composition ou à la presse, impression, donc une sorte de minimum qui doit être fixé et qui ne peut pas être violé par les maîtres. Donc l'exigence du tarif qu'on retrouve dans toutes les sociétés d'ancien régime, le tarif pour fixer les gages et les tarifs pour fixer les prix des biens. Et d'autre part, une seconde exigence qui est l'exigence des compléments en nature par rapport aux gages et qui sont ceux du logement, de la nourriture, des dépenses de bouche. Et ce qui faisait d'ailleurs un des points de l'hostilité des compagnons de la rue Saint-Séverin contre le maître imprimeur. C'est les très mauvaises conditions qui leur étaient faites pour et le logement et la nourriture. Et là, on est dans une autre structure d'ancien régime très forte, qu'avait très bien analysé Nathalie Davis dans son livre sur le don, c'est-à-dire que dans de très nombreuses professions, le salaire n'est pas simplement une rémunération monétaire sur un mode capitaliste, c'est une rémunération qui englobe toute une série d'éléments qui sont aussi du côté des gratifications, des épices pour les magistrats, des rémunérations en marchandises ou en nourriture pour un certain nombre de métiers. La composition de la rémunération n'est pas liée seulement avec la fixation espérée par tarif de la rémunération monétaire. Et puis la troisième enjeu de cette dispute, c'est la distribution même du travail que les maîtres peuvent essayer d'organiser de façon à réduire les gages. Et la conséquence de cette conscience forte collective de ces trois lieux de conflit avec les maîtres sur les gages et leur nature, sur les embauches d'apprentis ou d'alloués et sur l'organisation même du travail dans l'atelier est la construction, l'édification très tôt au XVIe siècle de confréries ou de communautés de compagnies qui prennent en charge cette défense collective. Dans le cas de Lyon, cette compagnie a pour nom compagnie des Griffarins. Elle mène la lutte contre tous les compagnons qui refusent d'y participer. Et d'autre part, elle organise l'action au-delà des expressions, des revendications, telles qu'on a pu le voir dans ce texte de 1572, mais aussi par l'organisation de la cessation du travail. Le tric, qui n'est plus à ce moment-là un jour de tric, mais qui est cessation du travail jusqu'au règlement du conflit. Et les premières grèves de ce type dans les milieux des imprimeurs du XVIe siècle ont eu lieu à Lyon en 1539, pendant trois mois, et à Paris en 1543. Et un des derniers traits qui se lierait à cela, c'est le fait que pour le XVIe siècle, et là je suis une très belle analyse de Nathalie Davis dans ses essais rassemblés dans Société et culture dans la France du XVIe siècle, et où, elle, travaillant sur Lyon, elle a porté une attention particulière au milieu de l'imprimerie, c'est la dissociation qu'elle dénomme comme une mentalité séculariste entre les intérêts économiques des compagnons qui peuvent unir catholiques et protestants, et d'autre part, les affiliations religieuses des mêmes compagnons qui peuvent être partagées avec les maîtres et qui s'expriment dans l'opposition entre catholiques et protestants. Et le cas de Lyon au XVIe n'est pas le seul, on pourrait dire la même chose à Rouen, mais est un cas tout à fait symptomatique de cette tension. Puisque entre les années 1530 et 1550, une grande partie des compagnons et des maîtres dans les métiers de l'imprimerie sont passés à la réforme. Et que dans les mêmes années, comme on vient de le voir, il y a de très violents conflits qu'on appellerait du travail sur le terrain de la lutte entre les compagnons et les maîtres. Et l'analyse porte sur cette dissociation entre les intérêts économiques qui peuvent réunir compagnons protestants et catholiques et sur la tension avec des affiliations religieuses qui instaurent la division et qui peuvent réunir du même côté compagnons et maîtres protestants versus compagnons et maîtres catholiques. Et c'est dans cette dissociation qui autonomise en quelque sorte par rapport aux religieux la sphère de l'action économique et sociale, que Nathalie Davis loge cette mentalité qu'elle appelle séculariste des compagnons et des ouvriers des ateliers d'imprimerie. Je pense qu'on peut prendre le texte, c'est un article qui a été traduit en français sous le titre de « Grève et salut à Lyon », l'opposition tout à fait forte entre le salut par l'affiliation religieuse, par les œuvres ou par sola fide. Et puis la grève, c'est-à-dire une forme d'action collective qui mobilise contre les maîtres, les compagnons. Et elle écrit « La mentalité séculariste des compagnons imprimeurs les rend non pas irreligieux, mais plus exactement capable de faire la distinction entre les mobiles spécifiques de leurs luttes économiques et ceux de leurs combats religieux. Lorsqu'ils chantent publiquement des psaumes dans les rues de Lyon, ils n'essaient point d'obtenir une hausse de salaire. À cette fin, précisément, ils ont fondé la Compagnie des Griffarins et mis au point tout un éventail de moyens d'action. Ils n'imaginent pas non plus que leur grève puisse mettre un terme au règne des comtes prêtres chanoines de Saint-Jean de Lyon qui ont dominé et tyrannisé l'espace de la ville. À cette fin, justement, ils impriment des livres avec leurs maîtres ou prennent en dernier recours leurs couteaux, leurs épées, leurs fusils pour tenter un soulèvement armé. Même pour imposer à tous les griffarins la conformité religieuse, ils n'utilisent pas les moyens dont dispose leur compagnie en tant que telle, avec ses serments et ses châtiments. Quand il se trouve dans les années 1540 qu'un nombre de plus en plus grand de ses membres sont proches du protestantisme, la compagnie cesse simplement de subvenir aux frais d'une messe commune. Dans les décades suivantes, elle reste une association non confessionnelle. En pratique, cela a eu l'avantage de préserver une unité professionnelle entre une large majorité de griffarins protestants et une minorité restée catholique encore à la fin des années 1550. Et cette dichotomie, où on peut voir une mentalité séculière, puisqu'elle autonomise par rapport aux options, aux choix, aux engagements religieux et à ce que l'on pense comme les conditions nécessaires pour le salut, une sphère d'une activité économique et sociale qui maintient cette coexistence et ce combat commun qui prend la forme, comme on l'a vu, de grève, de cabale, de manifeste entre les protestants et les catholiques. Et la rupture va se produire lorsque le consistoire va condamner justement cette séparation, va condamner l'autonomie de l'économique par rapport au religieux, va donc condamner les cabales, les grèves et les manifestes. Et du coup, c'est ce qui explique qu'à partir de 1565, dans un contexte plus général, il y a un reflux et un retour vers le catholicisme d'une grande partie des compagnons imprimeurs qui avaient été attirés par la réforme. Ce que l'on peut dire, c'est que de ces traditions que j'ai essayé de mettre en place, l'idée de république, le souci d'une liberté, la force d'une solidarité, le métier du livre du XIXe siècle hérite. D'abord parce que on y trouve, dès la première moitié du XIXe, les formes de solidarité qui s'incarne dans les sociétés de secours mutuels ou dans les sociétés de résistance des typographes. Ce modèle décrit par Conta va se généraliser comme une première forme, on pourrait dire, de syndicalisme et qui est tournée vers l'idée de l'entraide, donc de constituer des fonds d'entraide par cotisation volontaire qui vont à ceux qui se trouvent mis en difficulté. Et il y a cette... Le deuxième trait, évidemment, est à la fin du XIXe siècle, la création, qui avait été étudiée par Madeleine Robert-Hugh, de la Fédération française des travailleurs du livre, 1881, qui essaye de maintenir assemblée tous les métiers du livre dans la même fédération syndicale et qui adhère à la CGT en 1895. Et de ce militantisme des ateliers, il y a une traduction assez forte dans une statistique qui avait été donnée par Jacques Rougerie dans son livre sur la Commune de Paris et plutôt sur les communards qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie en 1874. Et l'on voit que dans la population des ouvriers parisiens qui sont déportés en Nouvelle-Calédonie, les typographes et les ouvriers des imprimeries constituent de loin le plus grand contingent. Et le plus grand contingent des condamnés, plus que les ouvriers du bâtiment ou les ouvriers de la métallurgie ou les ouvriers du bois ou les ouvriers du vêtement. Ils sont plus de 1300, alors que par exemple sur les ouvriers du bâtiment, qui est le deuxième métier le plus touché par cette répression et par la déportation après l'échec de la Commune, il y a seulement 490. Donc, on voit bien que les ouvriers typographes, dans le cadre de la Commune de Paris, à la fois dans le cadre de la répression, mais aussi dans le cadre des événements, constituaient l'élément clé, l'élément moteur d'une revendication, d'une autre forme d'association politique et d'une autre forme de défense, d'intérêts qui sont les leurs, mais qui les débordent sous la forme des intérêts collectifs. Donc, cette histoire de longue durée des pratiques, des habitudes, des représentations des ouvriers des imprimeries, typographes et pressiers, me paraît importante à la fois pour peut-être éclairer non seulement le XIXe siècle et ce rôle clé qu'ont joué les sociétés de secours mutuels, les fédérations des travailleurs, finalement, dans la CGT, le rôle des typographes, mais aussi peut-être pour comprendre un certain nombre, au moins en France, je ne sais pas dans d'autres pays, mais au moins en France, des conflits contemporains où la puissance de la Fédération du Livre a joué et joue toujours un rôle extrêmement important, parfois qui peut embarrasser à la fois les entreprises de presse et les lecteurs, puisqu'elle se traduit par des grèves ou par des cessations de distribution, mais qui en même temps renvoie à cette idée très forte d'une république constituée sur ses principes, sur ses exigences et sur ses pratiques, ce qui fait la spécificité, en quelque sorte, des métiers du livre, qui a survécu à la révolution industrielle de l'imprimerie, comme on l'a vu avec Balzac, une révolution qui commence par la mécanisation de l'imprimerie, ou de l'impression, dans les années 1820, et puis qui se continue à la fin du siècle avec l'introduction des machines à composer, les linotypes et monotypes. Donc, un premier choc industriel sur les pratiques et les habitudes des métiers du livre, et évidemment, aujourd'hui, les conflits les plus violents étant liés à un second choc, qui est ce passage ou l'entrée dans l'âge du numérique, qui modifie à la fois les formes de production des journaux, d'une certaine manière les modalités aussi de leur diffusion, qui redéfinit une grille des professions, qui en supprime un certain nombre et qui en quelque sorte fait échapper au contrôle de les fédérations de métiers, regroupées dans la Fédération du Livre, un certain nombre des tâches qui leur étaient traditionnellement attribuées. Et je pense que c'est sur cet horizon qu'on peut comprendre cette situation où, d'un côté, comme on le voit, il y a une mise en question, sinon de la production imprimée du livre, mais en tous les cas de la publication imprimée des journaux, avec des horizons projetant la disparition progressive de la presse sous sa forme imprimée, et de l'autre côté, ce qui en est à la fois l'illustration, la traduction, la conséquence des conflits quasi permanents entre des organisations syndicales des métiers du livre et les maîtres, soit de la publication, soit de la distribution, mais qui s'inscrit aussi sur cette toile de fond d'une transformation non achevée, non complète, mais en tous les cas déjà engagé. Le nombre de journaux qui disparaît, par exemple aux États-Unis, est tout à fait frappant dans les deux dernières années. Non seulement on a vu que Newsweek avait abandonné à partir de janvier toute édition imprimée, mais que par exemple un journal comme le Baltimore Sun ou un autre journal qui était le Times Picayune, qui est un journal de la Nouvelle-Orléans, qui étaient des journaux importants, ont cessé la publication imprimée et n'ont gardé qu'une forme électronique. Ça ne peut pas ne pas avoir des conséquences sur l'histoire de longue durée de la communauté de travail qui a été aujourd'hui l'objet du séminaire. Il nous reste donc un peu de temps. Si vous avez des remarques, questions, compléments, demandes d'éclaircissement. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était continuer cette analyse un peu, non pas systématique, mais de tous les acteurs impliqués dans la chaîne, ce qu'on pourrait appeler la chaîne du livre. Et après les copistes, après les censeurs, entrer dans l'atelier avec les deux métiers clés, les ours et les singes. Oui. Je n'ai pas évidemment la réponse. Si on pense à l'époque moderne au sens des historiens, c'est-à-dire jusqu'au début du XIXe siècle, je crois que la preuve qu'il y a une culture relativement homogène et unifiée, c'est les capacités de déplacement d'une situation à une autre. Pas simplement entre Dole et Neuchâtel, mais à l'échelle de l'Europe. Ce qui veut dire que, d'une part, des pratiques de métier sont suffisamment unifiées pour que des ouvriers allemands viennent travailler en France, ce qui était le cas au XVe et XVIe, les premières imprimeries à Paris, celles de la Sorbonne, ou la première imprimerie en Italie, celle de Subiaco au monastère, ont été établies par des ouvriers allemands itinérants. Donc, les barrières de langue sont secondes par rapport à une capacité et à des pratiques de métier. Donc je pense que jusqu'au début du XIXe siècle, on a cette communauté et la biographie, l'autobiographie de Franklin serait une autre illustration. Là, il n'y a pas de barrière de langue, enfin, encore que entre l'Angleterre et les États-Unis, on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait la même langue, mais enfin... Au-delà de cette communauté, Franklin se retrouve dans un même univers, avec des différences de taille, par exemple, parce que les grands ateliers londoniens ont beaucoup plus de presse et d'ouvriers que n'importe quel des ateliers de Philadelphie, Boston ou New York à la même époque. Mais néanmoins, la culture, à la fois technique et de sociabilité, est suffisamment homogène pour que ces passages se fassent sans problème. Donc je pense qu'il y a là à la fois une culture qu'on pourrait dire technique, les presses sont les presses, la composition est la composition, l'ancien régime typographique, comme j'avais dit une fois, l'invention de Gutenberg a créé une pratique de reproduction des textes et de production des livres qui est unifiée, homogène sur l'ensemble de l'Europe, mais elle s'accompagne aussi d'une culture du travail, avec ses aspects de faire lundi, de revendiquer la liberté, d'une forme d'organisation professionnelle qui est liée à cette culture du technique, elle est aussi une culture de la sociabilité. Donc je pense que la réponse serait oui, et une autre preuve serait que lorsqu'on lit les textes sur l'imprimerie, en particulier émanés d'imprimeurs ou de compagnons dans les textes du siècle d'or, dans, à partir du XVIIIe siècle en France, des traités sur l'imprimerie, entre les deux, même s'il n'est pas le fait d'un imprimeur, le traité de Moxon, on se retrouve dans un univers extrêmement cohérent où les différences peuvent venir fondamentalement du nombre de presses que les ateliers ont, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers traditionnels durablement n'ont possédé qu'une seule presse, mais d'autres ateliers ont pu aller, comme je sais pas, l'atelier de Pankouk à la fin du XVIIIe siècle, à plus d'une douzaine de presses. Donc il y a des différences de taille qui ne vont pas d'ailleurs nécessairement dans le sens que plus on avance dans le temps, plus les ateliers sont grands. Les ateliers des grands imprimeurs, éditeurs des incunables ont des tailles beaucoup plus grandes que beaucoup d'ateliers du XVIIIe siècle dans des villes de province ou même dans des capitales. Mais il y a donc une stabilité qui a défini un modèle technique et un modèle culturel qui est partagé. Alors après, pour le deuxième aspect de votre question, c'est-à-dire est-ce que dans les transmission au cours du XIXe siècle, avec les bouleversements de la double mécanisation des métiers du livre et la situation contemporaine, on garderait les mêmes traits? Je ne peux pas vous répondre. Je pense que les historiens du mouvement ouvrier ou du syndicalisme pourraient plutôt répondre qu'au XIXe siècle, cette centralité des métiers du livre dans les organisations syndicales, on la retrouverait sans doute en Allemagne, et un peu comme en France. Ensuite, les trajectoires sont sans doute assez différentes, mais je n'ai pas la capacité de vous répondre. Je ne pense pas, par exemple, qu'il y ait immédiatement dans les autres pays européens un poids, une puissance aussi grande que celui qui était ou peut-être est encore celui de la Fédération du Livre de la CGT en France. Sans doute, c'est aussi lié à la variété des histoires syndicales. C'est lié au mode de rapport entre les entreprises ou les entrepreneurs et les ouvriers. Là, on pourrait assister, mais je parle vraiment avec précaution, à une diversification selon les situations nationales, mais qui n'aurait pas à voir nécessairement avec quelque chose d'intrinsèque au métier du livre, mais qui aurait à voir avec le contexte dans lequel ces métiers sont exercés et qui, évidemment, ont pu suivre des trajectoires assez différentes selon les pays européens. Oui ? Allons-y. Oui. Non, mais votre hypothèse, j'ai pensé, puisqu'évidemment, Ours, dans Balzac, c'est, et plus généralement, dans ce temps du 19e, c'est la désignation des dépréciés. Et donc, évidemment, lié au marbre, et ce serait le transfert d'une désignation, sinon argotique, mais au moins familière, propre à un métier, d'un individu au résultat de son travail. Mais je pense que c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Il y a peut-être des échelons, des chaînons qui nous manquent entre l'ours comme le précier et l'ours comme le texte composé au marbre, mais je pense que c'est la vraie explication. C'est la contamination de l'un par l'autre. Non, c'est une très bonne question. Je pense que la réponse est plutôt non. C'est-à-dire que lorsque des analyses ont été faites pour voir combien de copistes du type que vous décrivez, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué, c'est une rupture qui s'opère essentiellement, on va dire, au XIIIe siècle, c'est-à-dire XIIe, XIIIe. C'est que lorsque l'on passe du scriptorium du monastère, où, comme vous l'avez dit, les copistes sont des clercs, et où finalement, comme disait Petrucci, il y a une formule qui serait scrivere senza leggere. On copie, on écrit, mais pas forcément pour lire. On copie des textes qui sont les justifications des propriétés du monastère, ou on copie en soi-même comme un acte dévotieux, mais ce n'est pas pour accumuler des lectures. Alors qu'au XIIe, XIIIe siècle, c'est le moment de la construction des écoles cathédrales, des universités, et à ce moment-là, il s'agit de scrivere per leggere, il s'agit d'écrire pour lire, pour alimenter ces lectures qui sont celles des professeurs, des étudiants, des maîtres. Et du coup, il y a un transfert du scriptorium monastique, de l'activité fondamentale de copie, à ce qu'on appelle la boutique des stationnaires, un mot qui signifiait les lieux où on publie, où on reproduit des textes, des livres, et par une activité de copie. Ils ne sont pas nécessairement tous réunis dans la même pièce, ce n'est pas forcément une usine de copie, mais néanmoins, il y a une unité qui est donnée par la boutique du stationnaire et particulièrement dans les grandes villes universitaires, avec cette idée qu'on inventera même entre le milieu du XIIIe et le milieu du XIVe siècle une technique de copie qui permet d'accélérer la copie, que l'on appelle la pecia, c'est-à-dire que l'on donne à copier les livres par pièce, par cahier. Et donc, du coup, le même livre peut être copié en même temps par différents copistes qui n'ont pas les mêmes cahiers à copier. Et ça démultipliait la capacité productrice. Mais à partir du milieu du XIVe, on peut penser que le marché était saturé, donc cette pratique qui anticipait d'une certaine manière l'imprimerie a disparu. Et alors, ce sont ces copistes-là dont je parle qui se trouvent confrontés à partir de 1455, et plus, de plus en plus, à la nouvelle technique. Et peu, très peu, vont devenir des imprimeurs. Et les compositeurs ou les pressiers des ouvriers du livre sont, en général, sans relation avec le milieu des copistes. Je pense que les copistes vont pouvoir survivre, comme on l'a vu, parce que la copie manuscrite existe, dans beaucoup de cas, mettre au propre les manuscrits d'auteurs. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a durablement une forme de publication de certains textes sous la forme manuscrite, et donc que les copistes ne sont pas privés de tout travail. Il y a le réemploi des mêmes copistes comme secrétaires par des auteurs ou par des administrateurs pour tout ce qui est soit la composition des textes, soit l'établissement des documents. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a un magnifique article en français, d'ailleurs, de Petrucci dans les Annales, où il montre deux choses. D'un côté, les grandes continuités, souvent niées par les historiens de l'imprimerie, entre le monde du manuscrit et le monde de l'imprimerie. Par exemple, la hiérarchie des formats. L'idée de folio, de quarto, de petit format, elle est en place à l'âge du manuscrit, avec ce qu'on appelle en italien libri da banco, les grands livres qu'on porte, qu'on ne peut lire qu'en les posant sur un pupitre ou sur une table. D'autre part, l'invention au XIVe, XVe du livre humanistique, qui est d'ailleurs un format moyen, quarto, et puis la multiplicité des petits formats, libelli ou libellus, qui peuvent être des livres de dévotion, des livres de piété, des livres d'école. Donc la hiérarchie des formats, qui va devenir un des éléments clés du système de l'imprimerie, est là en place. Les caractères typographiques, les écritures imprimées, sont toutes dérivées d'écritures manuscrites. Non seulement toutes les écritures gothiques, mais l'écriture humanistique, c'est-à-dire le romain, mais l'italique, qui est inventé, je pense, au début du XIVe siècle par un calligraphe qui s'appelle Sansovino. La seule écriture que l'imprimerie va peut-être inventer, mais qui va rester extrêmement marginale, c'est la lettre de civilité, qui a été utilisée pour un certain nombre, un registre très limité de livres. Donc, continuité graphique, continuité morphologique. Et on pourrait aussi dire, dans un sens, continuité dans les culturels, puisque avec le moment du XIIIe siècle, on est entré dans un monde où l'on écrit pour lire, où l'on copie pour lire et où on va reproduire des textes aussi pour la lecture. Et l'intérêt de l'analyse de Petrucci, c'est de montrer que ces continuités morphologiques, graphiques et culturelles, souvent oblitérées par une idée de la révolution de l'imprimerie qui inventerait tout, et va de pair avec une discontinuité très profonde dans les métiers du livre. D'abord parce que, comme je le disais, très peu de copistes deviennent maîtres imprimeurs. D'autre part parce que tout ce que j'ai décrit ne s'applique pas aux copistes. Les copistes n'étaient pas des itinérants. Les typographes ou pressiers le sont. Les copistes sont attachés à une ville, à un stationnaire, et il n'y a pas cette sorte de liberté géographique, de mobilité géographique. Et puis, on peut dire aussi que les copistes n'ont pas tous une professionnalisation aussi forte que les ouvriers typographes et Pressier, surtout les typographes, parce que les Pressier, il faut être fort, mais c'est de ce dont on parle là, c'est les compositeurs, c'est les typographes qui savent manier les cases d'imprimerie et composer les livres. Alors que dans les copistes, il y a bien sûr ces copistes professionnels qui sont employés par les stationnaires, mais il y a aussi une copie qui déborde cette réalité. À partir du moment où il faut écrire pour lire, beaucoup de lecteurs se font copistes des livres qu'ils veulent lire. Cette catégorie qui naît avec le XIIIe, XIVe siècle, que Petrucci appelle alfabeti liberi, donc des gens qui ne lisent pas pour la profession, qui ne sont pas des copistes de métier, mais qui vont copier pour leur plaisir de lire, pour construire leur bibliothèque. Et évidemment, on ne peut pas, sauf exception, considérer qu'il y a une continuité avec le métier techniquement particulier de typographe. Donc, la grande intérêt de votre question, c'est ça, c'est de situer des continuités morphologiques et graphiques à l'intérieur ou en relation avec une discontinuité radicale des métiers. Et je pense que c'est une leçon extrêmement importante qui a à voir avec le fait que s'il y avait des habitudes de copistes qui pouvaient être aussi différentes selon les lieux, il y a une unité technique de l'imprimerie qui va libérer les individus du lieu et qui va le rendre possible, d'abord rendre nécessaire un apprentissage technique et rendre possible une mobilité géographique. Oui ? Est-ce que les compagnons... Ah oui, embauchaient. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que... Oui, vous avez raison. C'est la question inverse de ce que décrit Nathalie Davis. Elle décrit des associations qui maintiennent des catholiques et des protestants, au moins jusqu'en 1565-70. Alors la vraie question, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que des maîtres catholiques ou protestants n'apportaient aucune... avaient aucune distinction en fonction de la religion des compagnons. Je serais tenté de répondre oui, mais je ne peux pas vous le documenter ni vous le certifier. Mais a priori, j'ai l'impression que, je ne sais pas, c'est difficile à dire. En plus, il y a une question qui est la question chronologique, c'est-à-dire que ce que l'a décrit bien cette analyse, ce sont ces périodes 1530 jusqu'à, on va dire, 1560, dans lesquelles il y a une certaine fluidité. D'abord, beaucoup de gens ne savent pas s'ils sont vraiment catholiques ou protestants. Il y a une attirance pour des idées de la réforme qui n'implique pas nécessairement qu'on va rompre avec l'orthodoxie catholique. Et il y a toute une série de... Ce matin, j'en parlais dans un cours sur Montaigne, et bon, sur la politique de l'amiral de Coligny, et où il y a l'idée qu'une concorde est possible, que beaucoup de personnes oscillent ou ne sont pas certaines. Là, notre distinction entre catholiques et protestants, qui est fondée parce qu'elle est théologiquement forte et rituellement forte, est tardive. En gros, on peut dire qu'elle est, disons, dans les années 1560, que c'est là où les affirmations, les affrontements, les oppositions, après tous les échecs de conciliation, de concorde, de confrontation échouent. Et c'est donc dans ces années-là, avant même la Saint-Barthélemy, que se fait la dissociation. Donc la question a tout à fait validité pour la période antérieure, mais évidemment elle est moins aiguë parce que la fluidité, le passage de l'un à l'autre, l'indistinction est beaucoup plus grande qu'il ne deviendra par la suite avec cette sorte de dissociation, de distinction radicale qui conduira à ce que l'on connaît pendant les guerres de religion. Mais là, il faudrait évidemment reprendre atelier par atelier pour voir ce qu'étaient les compagnons et quelle a été leur histoire avant l'embauche et après l'embauche. Mais je pense que les maîtres avaient quelque chose aussi de cette dissociation, surtout dans cette période, 1530-1560, entre des intérêts économiques, il valait mieux avoir des compagnons qui étaient de bons travailleurs, qui n'allaient pas abandonné comme ça, au pied levé, l'entreprise, ou qui connaissaient le métier, quelle que soit leur préférence religieuse, qu'un recrutement exclusivement sur une base confessionnelle. Donc je serais tenté de répondre oui. Après, j'ajouterais cette nuance chronologique, c'est-à-dire un moment où les identités religieuses sont beaucoup moins fixées, fermes, agressives qu'elles le seront après. Oui ? C'est vrai. Fondation de...
Est-ce que ce n'était pas parce que le véhicule imprimé était aussi subversif par rapport à l'autorité Louis XIV, ça gêne quand même beaucoup, qu'on puisse du jour au lendemain faire la pamphlète, ou est-ce qu'il n'y avait pas une réaction de l'Église catholique contre la liberté d'expression qui s'exprimait, en quelque sorte, contre la fonction, enfin contre le...
Oui, non, ce que vous touchez est juste, c'est-à-dire l'idée que l'imprimerie peut avoir une ambivalence. Ça référait à nouveau à cette idée qu'il n'y a pas de détermination intrinsèque d'une technique. Elle est ce que les pouvoirs, les institutions, les communautés, les individus en font. C'était la grande leçon de l'article fameux de Walter Benjamin sur la reproduction mécanique des images. Donc, l'imprimerie a pu être considérée comme un instrument puissant d'administration et de propagande. Et donc, de ce point de vue-là, enrôlé par les États aux fins de cette propagande ou de l'administration, ça va depuis les écritures publiques, étudiées par Petrucci, les monuments urbains couverts d'écritures souvent illisibles pour ceux qui ne connaissent pas le latin ou qui sont trop loin de l'écriture, mais qui marquent l'idée qu'avec l'écriture, on marque son territoire. Et l'imprimerie permet de démultiplier cette autorité diffusée. Elle le permet parce que, par exemple, pour les rituels d'État que seul un petit nombre d'individus peuvent voir, couronnement, sacre, mariage, funérailles, la démultiplication des textes imprimés, comme pour les entrées royales ou princières, la démultiplication crée un effet de participation de ceux qui lisent ou voient ces imprimés dans un acte rituel auquel ils n'ont pas participé. Et toutes les guerres de propagande, y compris menées par Louis XIV, utilisent cette imprimerie. Philippe II est le premier sans doute à mobiliser massivement les textes imprimés. Mais comme vous l'avez dit, en même temps, l'imprimerie échappe à ce contrôle et est toujours une capacité à l'envers, inversement, de diffuser sur une échelle plus grande que n'importe quelle circulation manuscrite des textes de critique, des textes de dénonciation, des textes de subversion. Ça peut être le cas lorsque dans le royaume sont affrontés des partis. Ça a été le cas, par exemple, avec les guerres de religion. Ça a été le cas avec la Fronde. Et puis, ça peut être le cas, non pas à l'intérieur d'une fracture du royaume, soit entre des partis confessionnels ou bien, dans le cas de la Fronde, des fronts politiques, mais peut-être le cas, effectivement, avec les conflits entre nations, et en particulier ce point que vous signalez, qui est l'introduction dans l'Europe, mais aussi en France, mais finalement c'était la mobilisation de l'opinion européenne par les libraires, imprimeurs, éditeurs qui s'étaient réfugiés dans les Provinces-Unies avant même la révocation de l'édit de Nantes. Et renforcé après. Donc l'imprimerie a cette ambivalence qui peut expliquer à la fois les rôles qu'il joue, mobiliser l'imprimerie mobilisée comme instrument de propagande et en même temps crainte, méfier, réprouver, ce qui peut entraîner à la fois les confiscations de livres prohibés, ce qui peut entraîner les la poursuite des éditions clandestines à l'intérieur même du royaume, ce qui peut entraîner les saisies à l'entrée des livres venus, par exemple, des provinces unies ou des principautés allemandes ou des villes suisses. Donc, c'est cette ambivalence qui est fondamentale. Alors, dans le contexte que vous posez, effectivement, il y a une guerre de propagande entre la propagande Louis XIVienne et la propagande réformée, en particulier de Français installés aux provinces unies. Et on trouvait de très nombreux exemples. Et alors, la conséquence avait été parfois l'idée même de la suppression ou de la suspension de l'imprimerie. François Ier avait pris un édit ou un arrêt qui supprimait l'imprimerie. Ça peut durer, mais pendant quelques années, il y avait l'idée d'une interdiction totale. En même temps, on a pu voir, pas forcément dans un contexte politique, parfois des suspensions totales d'impression de certains genres. En France, au XVIIIe siècle, dans les années 1720, il y a, durant une dizaine d'années, le ban sur la publication de tout roman. Et il y a la même chose en Espagne, entre 1625 et 1634, l'interdiction de publication de toute comédias et de tout texte de fiction. Comme s'il y avait là la méfiance par rapport à l'écrit qui crée des univers imaginaires où se perdent les Don Quichotte, et que la manière de réagir contre ça, c'était l'interdiction de toute impression dans ces genres jugés comme dangereux, pas nécessairement politiquement, mais parce qu'ils détournent les lecteurs de leurs tâches, de leurs devoirs, et les font projeter dans un monde imaginaire. Je pense que, au-delà du cas précis très juste que vous avez pris, cette tension entre l'imprimerie comme instrument de propagande et l'imprimerie comme instrument de critique et de subversion est absolument fondamentale. Et on pourrait dire d'ailleurs que cette dialectique alimente l'imprimerie, puisque les index qui condamnent des ouvrages imprimés sont eux-mêmes des livres imprimés. Donc il y a là comme une machinerie qui s'engendre elle-même. Mais les index de toutes les institutions religieuses, la Sorbonne comme faculté de théologie, enfin, comme collège lié à la faculté de théologie, l'Inquisition romaine, entrent dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire des machines qui essayent de désigner et d'étouffer les livres qui sont considérés comme contraires avec l'orthodoxie. Et donc un constant combat entre les institutions de censure et les publications transgressives, et en même temps une constante dialectique entre mobiliser l'imprimerie et réprimer l'imprimerie. Oui ? Les compositeurs deviennent pressiers.
Exactement. En l'absence de pressiers, oui. Ils passent à la phase. Alors, la question, on a vu les presses dans les ateliers. Qu'est-ce que vous pouvez dire des presses qui sont hors des ateliers ?
Oui.
J'ai vu des documents du 18e qui mentionnent des imprimeries portatives, oui, en vente ou en composition, comme ça, qui sont souvent d'ailleurs recherchées par les autorités, puisqu'elles permettent d'imprimer des nouvelles, des promotionnaires ou promotionnaires.
Oui, bon, une question très importante, peut-être assez peu étudiée, cette question des presses portatives. Alors d'abord, sur la première remarque, je crois que c'est très important de penser qu'il y a des définitions, des distinctions, des oppositions, mais qu'il y a aussi des pratiques. Et c'était tout le thème d'un texte fameux de Don Mackenzie qui s'appelle « Printers of the Mind ». C'est-à-dire que la bibliographie matérielle, par exemple, constituait des modèles idéaux du fonctionnement d'un atelier. entre le lien qui pouvait exister entre une presse et un ou plusieurs compositeurs, l'idée qu'il y avait une continuité dans le travail de pression d'un seul et même livre. Tous ces modèles qui étaient des modèles abstraits se heurtent lorsqu'on a les archives, comme la STN, comme certaines imprimeries anglaises qu'avait étudié Mackenzie, se heurtent à la réalité du travail. C'est-à-dire que selon la presse, au sens de l'urgence, on peut voir que des compositeurs vont donner leur forme composée à différents pressiers. Il n'y a pas d'association permanente. Que d'autre part, on est très loin dans les ateliers qui ont beaucoup d'activités de ce modèle du continuous printing. Le même compositeur peut passer dans la même journée de la composition d'un décret demandé par une autorité administrative, une affiche, et puis un chapitre des essais de Montaigne. Et donc, du coup, ce que vous dites ne ferait qu'alimenter la critique de Mackenzie, c'est-à-dire que même une distinction aussi bien établie que pressier et compositeur peut se trouver subvertie lorsque la nécessité fait loi. Et que donc, du coup, il y a une mobilité, une fluidité. C'est toute la distinction entre traiter de cette question à partir des traités normatifs, particulièrement Moxon, et des distinctions classiques, et puis d'entrer, alors plus profondément que je l'ai fait aujourd'hui dans l'atelier, pour voir que les exigences de la pratique peuvent bouleverser ces modèles parfaits. Donc l'idée du printers of the mind, l'esprit du bibliographe qui voit là comme une organisation, ou parfois même des textes. Par exemple, on connaît les règlements étudiés par Gillemont des Plantins à Anvers. C'est une description parfaite de l'organisation du travail. Mais ce que vous dites montre bien que dans l'activité, il y a une subversion de cette distinction. Alors l'autre question des presses portatives mériterait effectivement une analyse. D'abord, parce que ces presses portatives ont pu être utilisées dans plusieurs contextes. Premier contexte, la mission. C'est-à-dire que les missionnaires catholiques, jésuites ou d'autres ordres en mission, particulièrement par exemple dans l'Amérique, ont employé des presses portatives qui permettaient d'imprimer des textes parfois dans les langues indigènes et en tous les cas d'alimenter une production de textes de dévotion et de piété. Et donc, j'en sais pas plus ou guère plus à propos de la nature de ces presses, mais en tous les cas, on sait qu'il y a un lien entre presse portative et mission catholique. Le deuxième contexte, ce sont des presses aristocratiques. Dans l'un des textes que j'utilisais pour éclairer le texte de Cervantes sur la visite de Don Quichotte dans l'imprimerie à Barcelone, c'est un texte de Melchor de Cabrera Núñez de Guzmán, qui est un avocat employé par les imprimeurs de Madrid pour défendre leurs droits. Et il écrit un mémoire en 1675 qui est publié pour cette défense. Et pour montrer que l'imprimerie est un art libéral, et il le montre que c'est un art non seulement protégé par les princes, mais que c'est un art pratiqué par les grands et par le roi. Il rappelle par exemple que Louis XIII avait une imprimerie au Louvre et qu'il était un excellent compositeur. Et puis il met en scène deux visites, l'une qui est la visite de Philippe III et de sa fille, l'infante Doña Ana, dans une imprimerie privée, qui est celle du duc de Lerma, le premier ministre du roi. Et il y a une très belle scène où la jeune princesse s'arrête devant une case d'un compositeur. Elle demande qu'on lui écrive son nom dans la paume de sa main et elle-même va sortir les lettres qui lui correspondent pour les mettre dans ce qu'on appelait le visorium, c'est-à-dire le composteur qui est la règles dans lesquelles on met les différentes lettres qui composent une ligne. Et puis, continuant son argumentation, Cabrera décrit cette scène où le roi lui-même entre dans ce petit atelier, mais qui est une imprimerie privée, et on peut supposer avec des presses qui ne sont pas celles des Plantin ou celles de la STN, et il écrit « Sa Majesté entra dans l'atelier et demanda aux ouvriers de demeurer à leur place et tout en restant assis, de poursuivre la tâche à laquelle ils étaient occupés. Quand il arrivait à une case, durant tout le temps qu'il s'arrêtait pour regarder le travail de composition, il posait la main sur l'épaule gauche du compositeur. » On voit donc un geste de protection, de révérence pour l'imprimerie, puisqu'il ne leur demande même pas qu'ils restent assis, ils ne doivent pas se lever en présence du roi. Et donc, c'est un lien, ça, c'est l'idée de presse privée, de presse au sens de ce que vous avez dit, de presse portative, qui appartiennent à le monde aristocratique pour toutes sortes de besoins. Certains peuvent être peu ludiques et d'autres peuvent être la publication de textes qui sont liés avec leur administration. Donc la mission, le monde aristocratique, et un troisième élément des presses portatives, c'est plutôt lié à la question qui avait été posée avant, c'était par exemple que Benjamin Franklin a une presse portative à Passy. Lorsqu'il est à Paris, à la toute fin de sa vie, il est l'ambassadeur des nouveaux États-Unis d'Amérique et il doit convaincre les Français qu'il faut entrer dans la guerre. Lui qui a travaillé dans l'imprimerie de Palmer, qui a travaillé dans les imprimeries à Philadelphie puis à Londres, a une petite presse à Passy. Et quand il y avait eu des expositions sur Franklin, on voyait ce qu'il imprimait. D'ailleurs, il imprimait des libelles, des pamphlets, des mémoires qu'il distribuait pour la cause des insurgents, la cause américaine. C'est une autre possibilité. La presse portative dans cette fin a une fin politique. On pourrait continuer l'inventaire et on pourrait surtout mener l'étude pour savoir exactement ce qu'étaient ces presses, quelles sont les capacités productives qu'elles peuvent assumer, et finalement de repérer des productions imprimées qui auraient été conservées issues de ces presses portatives. Mais il y a sûrement des articles, je ne les ai pas cherchés, mais enfin, à mon avis, c'est un domaine assez mal connu. Je pense que des bibliophiles sont intéressés par cette question de récupérer des productions moins normales que celles des ateliers typographiques qui étaient celles de ces presses portatives. Je pense que ces trois usages, missionnaires, aristocratiques et politiques, définissent, et peut-être avec, je ne sais pas, peut-être avec une plus grande fréquence au XVIIIe siècle auparavant, mais je n'en suis pas certain. En tous les cas, au XVIe siècle, on n'en a guère mention. Je pense que c'est à partir du XVIIe que l'on voit que dans les missions et dans les milieux aristocratiques, la présence de ces presses privées, comme on dit. Bien, allons imprimer quelques ouvrages pendant cette soirée. Et, donc à jeudi prochain pour le dernier de ces...